les informations de Mireille Boukassa.
Ces personnes enlevées et une autre grièvement blessée dans la nuit dernière dans le village Chidao, sud Kivu, c'était lors d'une attaque attribuée à des rebelles hutu-rwandais. Des enquêtes viennent de s'ouvrir sur des abus commis le 16 mai dernier dans la localité des Kajimbu au Katanga. C'est l'œuvre d'une mission conjointe auditorat militaire, ANER et la MONUC. 31 mai, journée mondiale sans tabac, célébrée cette année sous le thème « Environnement sans fumée ». À Kinshasa, un projet de loi sur la réglementation de la consommation du tabac a été soumis au gouvernement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rendons-nous tout de suite au sud Kivu où il y a eu attaque la nuit dernière dans le village de Chidao, en groupement de Bugobe. Nous sommes dans le territoire de Kabare, à plus de 25 km à l'ouest de Bukavu. L'administrateur du territoire de Kabare parle de 7 personnes enlevées et amenées dans la forêt par un groupe de 9 assaillants armés et parlant le Kinyarwanda qui ont assiégé le village vers minuit. Des précisions avec Michel Chirimwani.
Selon l'administrateur du territoire des Kabare, l'attaque a eu lieu vers minuit et au cours de celle-ci, une femme a été blessée. De 7 otages, on compte un homme, 2 femmes et 4 filles. Parmi les assaillants, 8 étaient en tenue militaire et 1 en civil. Ils parlaient le Kinyarwanda et le Machi, la langue locale. Ils ont pillé des biens qu'ils ont emportés avec les otages, laissant dans leur fuite un enfant d'une année qu'ils ont séparé de leur mère emportée dans la forêt. Des éléments phares d'essai ont été tout de suite lancés à la poursuite des assaillants qui se sont dirigés vers les hauteurs de Mulumemunene et du parc Kaous Biega. Selon la même source, cela faisait plus de 2 ans que le village de Kabare n'était pas la cible de pareilles attaques des présumés combattants autour rwandais. Une réunion des conseils de sécurité s'est tenue à ce sujet. Bukavu, Michel Tilmwami, Radio Okapi.
Au sud Kivu toujours, l'archevêque de Bukavu fustige la léthargie du gouvernement et de la MONUC sur les questions de sécurité à l'est de la République. Dans un message remis à l'ambassadeur de France en RDC, Mgr François-Xavier Maroy évoque des faits qui prouvent, d'après lui, la préparation d'une nouvelle guerre à l'est du pays. Le chargé de la communication de l'archidiocèse, l'abbé Jean Bosco Bahala, nous explique ici un extrait de ce message. Il est au micro de Serge Maïché.
C'est cette mauvaise lecture des faits que Monseigneur l'archevêque a voulu dénoncer. Il a voulu d'abord faire prendre conscience à tout le monde, non seulement à la communauté internationale, qu'aujourd'hui, il ne faut pas, demain, quand les choses vont aller mal, il ne faut pas que la communauté internationale dise « nous ne savions pas ». Nous avons besoin de protection. Mais nous savons bien que la responsabilité incombe à nos dirigeants. Nous, Église, nous essayons, par les voies qui sont les nôtres, de faire un plaidoyer. Et nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons averti qu'il fallait avertir. Et ce qui nous étonne alors, nous, c'est que le gouvernement central semble vouloir cautionner cette campagne qui veut montrer qu'il y a un problème intercommunautaire, terme d'abord sujet à caution.
Une mission mixte MONUC, auditorat militaire, Agence nationale des renseignements, séjourne depuis mercredi dans la localité de Kabalo, à 300 km de Kalemie. Objectif de cette mission, enquêter sur les pillages et autres cas de viol perpétrés par des éléments des FRDC et des LANER dans la localité de Kajimbu le 16 mai dernier. Retrouvons Expedi Mombamoubi depuis Kabalo pour les détails.
Assis à l'ombre d'un manguier à côté des bureaux du territoire, le capitaine Néné Yembe Diema, auditeur de la garnison de Kalemie, procède aux auditions des victimes venues de la localité de Kadimbu, située à 30 km, pour témoigner des atrocités que des éléments de l'ANR et des soldats FRDC leur ont fait subir le 16 mai dernier. Les premières à témoigner sont les femmes. Au total, 8 femmes dont l'âge varie entre 18 ans et 60 ans. Chacune d'elles a été violée vers 4h du matin par un groupe de personnes, agents de l'ANR et militaires, qui ont pris le soin de les ligoter avant tout. Puis, c'est un homme d'une trentaine d'années qui raconte comment des éléments de l'ANR l'ont brûlé à l'omoplate. Les habitants de Kadimbu ont perdu aussi leur volaille et petit bétail. Le chef de localité parle, lui, d'un conflit qu'il oppose au chef de groupement Mouchi, qu'il a fait arrêter par l'ANR. Le chef de groupement Mouchi, par contre, ne reconnaît pas avoir réquisitionné les éléments ANR et FRDC. Monsieur Kandamavole affirme toutefois que depuis 1960, la localité de Kadimbu a toujours été frondeuse. De Kabalo, Expedi Mambamobi, Radio Okapi.
En province orientale, environ 121 personnes, dont 31 militaires, ainsi que leurs dépendants, passent la nuit à la Belle Étoile à l'aéroport de Bangboka. Il s'agit des éléments issus de la 13e et de la 15e brigade destinées à la démobilisation et en attente de rejoindre leur région militaire de provenance. Ceux-ci accusent le commandement local de la force aérienne de les faire traîner à l'aéroport au profit des civils moyennant de l'argent. Des accusations rejetées catégoriquement par le commandant Godvivo Mundo.
Jugés inaptes à la carrière militaire, ces éléments sont mis à la disposition de la division des affaires sociales de la région de provenance respective, et notamment Goma, Beni et Bukavu. En attendant leur départ, ils affirment passer des moments difficiles avec leurs dépendants à l'aéroport de Bangoka. Selon eux, le commandant de la force aérienne est à l'origine de leur malheur, témoignage d'une épouse militaire.
La vie ici est très difficile. Nous avons vendu tous nos biens. Nous avons des feuilles de route, mais la force aérienne nous demande encore 30 dollars avant de voyager. Malgré ça, si un civil se présente avec 50 dollars, on l'embarque à la place du militaire. Nous sommes à bout de nos forces. Nous et nos maris sommes devenus des transporteurs pour avoir une fils qu'à nourrir les enfants.
Tout en rejetant toutes ces accusations, le commandant second de la force aérienne s'est dit incapable de faire voyager toutes ses familles. Pour lui, les compagnies d'aviation, débordées par leurs clients, n'acceptent plus des recommandations des militaires. Mais le commandant de la 9e région militaire, le général Padiri Boulenda, affirme avoir adressé une demande au commandant de la force aérienne à Kinshasa afin d'affréter un avion pour leur évacuation. Kisangani, Godlivo Mondo, Radio Okapi.
Et puis cette suspension provisoire d'une trentaine d'agents et cadres de la Direction générale de migration et ceux de l'Agence nationale des renseignements à Goma. Les concernés, tous des Congolais, sont reprochés de travailler en RDC tout en résidant au Rwanda et en Ouganda. Selon les responsables de deux services, ces agents et cadres seront remis dans leurs fonctions uniquement s'ils trouvent une résidence en RDC. De Goma, Gisèle Cage.
En tout, 14 cadres et agents de l'Agence nationale de renseignement ANR et 19 de la Direction générale de migration DGM sont suspendus depuis le 26 mai dernier. Dans leur décision commune, les directeurs de deux services certifient à leurs agents et cadres qu'ils sont suspendus provisoirement jusqu'à ce qu'ils élisent domicile au Congo. Tous ces cadres et agents de l'ANR et DGM sont pour la plupart domiciliés à Gisenyi et à Ruwengeri au Rwanda. D'autres par contre ont des domiciles à Kisoro en Ouganda. Cette décision fait suite à la réunion du comité provincial de sécurité du Nord Kivu qui s'est tenue il y a près d'une semaine. Dans cette réunion, les membres du comité provincial de sécurité avaient condamné le fait que certains agents travaillant dans des services publics avaient des domiciles au Rwanda. Le vice-gouverneur de la province, Maître Feller Lutaichirwa, avait expliqué que les services de l'ANR et DGM sont rattachés à des attributs de l'État. Par conséquent, ces fonctionnaires devraient résider au pays. Selon le responsable de l'ANR et DGM au Nord Kivu, la levée de cette suspension va se faire automatiquement pour chaque agent et cadre qui aura réélu domicile au Congo. Gisèle Cache-Goma, Radio Capi.
Après plus de 13 ans de désespoir, les ex-agents Gécamine refoulés du Katanga venus au Kasaï occidental sont enregistrés en vue d'obtenir leur décompte final. C'est une délégation d'un cabinet de consultance privée venue de Lubumbashi qui se charge de cette opération. Cette délégation s'engage à faciliter la tâche à ceux qui n'auront pas de moyens pour aller toucher leur dû à Lubumbashi dans les deux mois prochains. Une initiative que saluent vivement les bénéficiaires éparpillés dans la province. André Kambala.
Ils sont plus de 1500 ces ex-agents de la Générale de Carrière des Mines disséminés à travers le Kasaï occidental. Leur enregistrement s'est fait suite à la présentation de leurs documents de travail. Selon Mme Anton Tumba qui conduit la délégation venue de Lubumbashi, leur mission à Kananga se justifie par la disponibilité de la Gécamine à s'acquitter de son devoir envers ses anciens travailleurs.
Nous avions d'abord commencé ces démarches-là pour leur paiement de décompte final. Quand ça a réussi, nous nous sommes dit que tous nos frères ne sont pas en mesure aujourd'hui de regagner le Lubumbashi pour aller se présenter pour leur décompte final. C'est ainsi que nous nous sommes dit non, pouvant aider nos frères, mais c'est plutôt qu'ils ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Lubumbashi. L'usine de procuration nous amène à la Gécamine. La Gécamine étudie chaque dossier, donc individuellement.
Une nouvelle bien accueillie par les bénéficiaires. Leur président les appelle tous à se faire enregistrer et dit attendre de l'entreprise le respect des droits des employés pour éviter la situation pareille à celle du départ volontaire soumis aux agents en 2005. Julien Tipamonfamba.
La nouvelle a été accueillie très positivement par tous les refoulés qui étaient déjà dans le désespoir. On ne sait pas qu'un jour ils pouvaient entrer dans leurs droits. À première vue, on accepte ce qu'on a donné, mais on continue les revendications par rapport à la nature même de la rupture du contrat, la nature que nous n'acceptons pas.
Contacté, le directeur des ressources de la Gécamines, M. Urbain Mayaï, précise que le paiement sera échelonné compte tenu des effectifs. Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Les élèves de l'Institut Bomamungu dans le Bas-Congo sont en colère. Ils réclament le déguerpissement de l'université Joseph Kasavubu des bâtiments de leur école. Hier mercredi, ils ont organisé une marche de protestation dans la ville. À l'origine de la colère de ces élèves, une bagarre qui a opposé les élèves aux étudiants. Vicky Odiabouin-Kadila nous en parle.
Cette marche qui avait pour point de chute la mairie de la ville de Boma intervient après les affrontements d'hier. Il a opposé les élèves de l'Institut Bomamungu aux étudiants de l'Université Joseph Kasavubu. À la base de la dispute, les bâtiments appartenant à l'Institut Bomamungu, également utilisés par les étudiants de l'Université Joseph Kasavubu. Pour les élèves, les étudiants doivent impérativement quitter ces bâtiments. C'est la demande qu'ils ont formulée auprès du maire de Boma à l'issue de leur marche. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque les élèves de l'Institut Bomamungu ont réclamé que leur soit livré un étudiant qui faisait partie, selon un du corps enseignant de l'Institut Technique Professionnel Kabondo, accusé d'avoir tabassé l'un de ses professeurs. Geste que les étudiants n'ont pas apprécié. L'échange de paroles entre élèves et étudiants qui s'en est suivi a vite tourné à une bagarre généralisée. Bilan, une dizaine de personnes blessées de part et d'autre. Signalons que ce matin, il n'y a pas eu cours dans ces deux institutions. Matadi, Vicky Odia, Radio Okapi.
Contacté, le maire de la ville de Boma, Victorine Masunda, affirme qu'une réunion regroupant notamment le recteur de l'université Joseph Kasavubu, les préfets de deux directions de l'Institut Bomamungu et le conseil de sécurité de la ville de Boma a été convoquée pour essayer de résoudre ce problème. Les éléments de la police nationale ont procédé ce mercredi à Kikuit au déguerpissement forcé de tous les revendeurs le long des avenues et devant les magasins du centre-ville de Kikuit. Une mesure émanant du bourgmestre de la commune de Lukolela, mais contestée par ces revendeurs. Ces derniers ont perdu plusieurs de leurs biens au cours de cette opération. Fabien Kambinzi.
Plus de 100 étalages et kiosques du centre-ville de Kikuit ont été détruits hier mercredi par les éléments de la police nationale sur ordre du bourgmestre de la Lukolela. Les propriétaires se disent être surpris de cette opération qu'ils jugent méchante pour n'avoir pas été tenus informés. Quelques heures après la destruction, ils se sont dirigés vers la mairie pour protester contre cette décision et demander qu'ils soient réparés leurs kiosques et étalages cassés car ils payent des taxes à la commune et ont des contrats vis-à-vis des propriétaires de magasins. De son côté, le maire de la ville de Kikuit s'est dit aussi surpris de cette décision. Il révèle que des pourparlers ont eu lieu dernièrement avec une délégation de Beseko pour la construction de 3 marchés dans la ville de Kikuit. Pour lui, il est tôt de chasser ces revendeurs en attendant la concrétisation de ces projets. Sur ce, il décline toute responsabilité et renvoie tout sur les dos du bourgmestre. Tous les efforts fournis pour joindre le bourgmestre de Lukolela sont demeurés vains. Kipit, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Nous sommes le 31 mai. Aujourd'hui, nous le disions en titre, c'est la journée mondiale sans tabac. Elle est célébrée cette année sous le thème « Environnement sans fumée ». À Kinshasa, le programme national de lutte contre la toxicomanie a soumis au gouvernement un projet de loi sur la réglementation de la consommation du tabac. Le directeur de ce programme l'a dit au cours d'une conférence organisée ce matin à l'EMS. Rigobert Mbouyou est joint au téléphone par Baben Pongo.
La fumée qui est émise par le fumeur et qui est avalée par le non-fumeur qui est à côté, cette personne qui avale va subir les mêmes maladies que peut développer un fumeur actif. D'où il faut définir un certain nombre de places dans lesquelles on ne peut pas fumer à 100%. Et nous avons présenté au gouvernement un projet de loi anti-tabac et qui permet, n'est-ce pas, de réglementer les conditions du fumeur, qui peut fumer, disons, est-ce que les enfants peuvent fumer ou pas, s'il faut fumer en public. Est-ce qu'un enfant peut vendre la cigarette? Dans quelles conditions importer, distribuer la cigarette? Nous pensons que les grandes personnes qui fument, ce que nous faisons, c'est leur dire que le tabac peut vous tuer. Mais ce que nous voulons, c'est beaucoup plus maintenant les enfants. C'est eux qu'il faut empêcher qu'ils ne tombent dans le circuit infernal de fumer. Les contraintes que nous avons, c'est que les conditions de travail ne sont pas convenables. On n'a aucun appui budgétaire jusque-là.
Et le ministre de la Santé a quant à lui promis de soumettre ce projet de loi au Conseil des ministres. Makwenge Kaputi a également promis de renforcer le programme de lutte contre le tabac dans le cadre du budget du gouvernement et grâce aux appuis extérieurs. Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.